Bonsoir à tous. Un choc de campagne de famille brutal pour le Rassemblement National et Marine Le Pen. Marion Maréchal, la nièce de Marine Le Pen, penche pour Éric Zemmour. Un coup dur pour sa tante après les départs de ces dernières semaines. Les précisions dans un instant de Maxence Lambrecq. Éric Zemmour, aujourd'hui en Sologne, a accueilli avec un grand sourire le ralliement pas encore officiel de Marion Maréchal. Le candidat de Reconquête visitait une exploitation de brebis. La campagne à droite plus calme, Valérie Pécresse, aujourd'hui à Oyonnax, continue de présenter son programme avec une proposition forte dans le secteur de la santé, la consultation à 30 euros au lieu de 25 chez les généralistes. Dans ce journal également, les épreuves de spécialité au bac reportées au mois de mai, la crise en Ukraine, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron sont tombés d'accord aujourd'hui sur la nécessité d'une désescalade et puis nous irons en Hongrie pour la demi-finale, France-Suède au championnat d'Europe de handball. À 19h20, le téléphone sonne. Attention, attention Claire, au gaz hilarant.
Effectivement, on va parler de ce produit qui fait de plus en plus de ravages. Il s'agit en fait du protoxyde d'azote, un gaz détourné de son usage d'origine. Certains jeunes en consomment au point de finir aux urgences, parfois paralysés. Les médecins eux-mêmes sont désemparés. Il manque clairement une information sur le sujet, alors c'est ce qu'on va faire ce soir. Si vous souhaitez témoigner ou poser une question, comme d'habitude, vous appelez le 01 45 24 7000.
France Inter. L'extrême droite et le Rassemblement National au bord de la crise de nerfs. Pourquoi tous ces départs du parti de Marine Le Pen pour aller chez Éric Zemmour, Marion Maréchal, la nièce de Marine Le Pen et ancienne députée FN hésite, elle veut refaire de la politique, elle penche pour Zemmour. Officiellement, la décision n'est pas prise, mais la tentation est forte et Marion Maréchal ravive les plaies du clan Le Pen, Maxence Lambrecq.
C'est l'horreur quand même. SMS hier de Marine Le Pen à un de ses proches. Un choc violent, brutal, peut-être le basculement de sa campagne, le début d'un nouveau combat en tout cas, car Marion Maréchal n'envisage pas simplement un discret ralliement à Éric Zemmour, mais son retour en politique. Ce n'est pas juste pour passer une tête et dire coucou, lâche-t-elle aux Parisiens. J'étais contente d'arrêter il y a 5 ans, ajoute-t-elle au Figaro, mais là, j'ai envie d'y retourner. Retourner d'abord à l'Assemblée. Elle annonce quasiment sa candidature aux législatives de juin sous la bannière d'Éric Zemmour. Elle ne croit plus dans le RN. Elle donne le top départ, reconnaît-on en interne, ce ne sera pas le dernier ralliement. D'autres députés européens vont la suivre pour anticiper la recomposition, l'union des droites, convaincue que Marine Le Pen n'ira jamais à l'Élysée, que sa troisième défaite sera la dernière. Si sa nièce bascule aujourd'hui, son père hésite encore. Jean-Marie Le Pen penche pour Éric Zemmour, mais tient à soutenir au dernier moment le mieux placé. Situation familiale compliquée, minimise son conseiller. Le patriarche, 93 ans, comme la petite fille, colle à la ligne identitaire réactionnaire du polémiste et juge ridicule les adoucissements de Marine Le Pen, cette dédiabolisation qui vient à nouveau déchirer cette famille.
Et pour Éric Zemmour, aujourd'hui en Sologne, c'est une belle semaine, même s'il marque le pas dans les sondages et s'il n'a pas encore les 500 parrainages pour se présenter. Le candidat de Reconquête affiche un grand sourire et c'est en toute décontraction qu'il a visité une exploitation de brebis à la Motte-Beuvron dans le Loir-et-Cher. Sur place, Élodie Forêt.
Un agneau de quelques heures dans les bras, Éric Zemmour boit du petit lait cet après-midi, sourire jubilatoire devant les caméras.
Bonjour. Si vous voulez savoir ce que je pense de cette semaine, je vous dirais que c'est une belle semaine.
Le candidat n'en dira pas beaucoup plus, feignant face aux journalistes de minimiser l'événement.
Je vous répondrai ce que vous aurait dit ma grand-mère. Qui vivra ? Verra.
Hors micro, l'entourage, lui, applaudit la prise de position de Marion Maréchal. Ça va démobiliser les électeurs du RN, parie un cadre. Mais pas besoin, nous explique-t-on, d'interférer davantage dans la saga Le Pen. En attendant, suivi par une centaine de brebis, ce sont donc les derniers alliés qui s'affichent aujourd'hui. L'ex-LR Guillaume Pelletier à domicile dans sa circonscription et l'ex-RN Jérôme Rivière.
Et loin des tempêtes qui secouent l'extrême droite, Valérie Pécresse continue de décliner son programme. Programme aujourd'hui dans l'Ain, la candidate du Parti des Républicains a visité le centre hospitalier d'Oyonnax. Elle a rencontré des représentants du monde de la santé pour leur présenter ses propositions. Anne Souhaitement.
Ni image coup de poing, ni propos choc. Fidèle à sa campagne, très sage pour le moment, Valérie Pécresse est venue parler santé. Visite d'un hôpital sans la presse, table ronde avec les professionnels.
Et vous-même, vous êtes seule ou vous êtes dans un cabinet de groupe ?
Valérie Pécresse écoute, stylo à la main, ce qu'ont à dire médecin, directeur d'hôpital et sage-femme.
Moi, ça fait 14 ans que je suis installée en libéral, avant j'étais hospitalière.
Pour ensuite décliner ses propositions selon son tempo. Pas question de se laisser déborder par l'actualité, de commenter le retour de Marion Maréchal.
Je suis en train de vous parler d'un hôpital qui ferme des lits Et c'est ça que vous me posez comme question, franchement.
La candidate veut parler de fond. Création de 25 000 postes de soignants à l'hôpital, débureaucratisation, plus grande autonomie hospitalière. Valérie Pécresse multiplie les mesures avec une annonce clé, la revalorisation de l'acte.
Ce sera la révolution du quinquennat. Aujourd'hui, vous le savez, la consultation de généraliste, elle est à 25 euros. Compte tenu du coût de la vie aujourd'hui, qui peut penser que cette consultation ne vaut que 25 euros ? Il faut que la consultation passe à 30 euros.
Si elle est élue en mai, Valérie Pécresse promet aussi de lancer trois grandes causes, la santé mentale, les cancers des enfants, avec en cas d'hospitalisation la création d'un congé pour les parents qui garderaient leur salaire, et la santé des femmes.
Et puis si les candidats déclarés à la présidentielle attendent l'annonce de candidature d'Emmanuel Macron, il se pourrait bien que des ministres aient officialisé sa candidature un peu trop vite en mettant en ligne le site préfigurant la future campagne d'Emmanuel Macron avec vous, Macron 2022. Tous les détails à retrouver sur notre site franceinter.fr. L'autre titre de l'actualité ce soir, c'est le bac et les épreuves de spécialité reportées au mois de mai en raison du Covid. Un report annoncé aujourd'hui par le ministère de l'Éducation nationale. Ces épreuves écrites auront donc lieu les 11, 12 et 13 mai prochains. Beaucoup de lycéens sont déçus. Les notes ne seront pas prises en compte dans Parcoursup. Pour les syndicats d'enseignants, en revanche, c'est un soulagement. Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES-FSU, elle est professeure de sciences économiques et sociales en terminale.
C'est une annonce qui va dans le bon sens puisqu'elle va permettre de donner du temps, aux élèves et aux professeurs pour préparer de manière plus sereine ces épreuves. Donc là, on a été entendu. C'est clairement aussi une décision qui est à mettre au crédit de la mobilisation de ces dernières semaines puisqu'on avait très largement fait écho des difficultés à préparer correctement ces épreuves. On a obtenu que les épreuves de spécialité se feront sur la base du programme qui était prévu pour le mois de mars. C'est-à-dire qu'on ne va pas rajouter des chapitres en plus aux élèves pour préparer les épreuves de spécialité. Ça enlève donc peut-être un peu de stress pour les élèves qui craignaient que ce report s'accompagne d'un travail supplémentaire. Quand on voit les dernières semaines qu'on a pu vivre dans nos salles de classe avec des élèves qui sont absents, qui sont malades du Covid, des classes qui sont jamais entières en fait en même temps, on voit bien que ce report va nous permettre de travailler avec plus de sérénité.
Sophie Vénétité avec Sonia Princé. Et après le bac, la fac, avec un coup théâtre dans l'enseignement de la médecine en France. La ville d'Orléans vient de signer un accord avec la faculté de médecine de Zagreb, en Croatie. Dès septembre 2022, 50 étudiants suivront ce cursus privé pour obtenir un diplôme de médecine reconnu en France. La conférence des doyens des universités de médecine s'est indignée, mais pour la ville, c'est un moyen de lutter contre les déserts médicaux. François Guiroux, France Bleu Orléans.
Dans la métropole d'Orléans, 15 000 habitants actuellement n'ont pas de médecin traitant, en grande partie parce qu'il n'y a pas de fac de médecine, elle est située à Tours et le gouvernement refuse toute création nouvelle. Serge Groire, le maire d'Orléans, n'en peut plus.
Tous les jours, j'entends cette remarque, mais monsieur le maire, je n'ai plus de médecin traitant. Comment je fais ? J'ai un problème avec les enfants parce que je ne trouve pas de pédiatre, etc. Donc on pourrait dire, évidemment, écoutez, ce n'est pas dans la compétence d'une mairie de s'occuper de la formation de médecine. On ne le dit pas parce qu'il y a une urgence, donc on essaye d'apporter notre solution à l'urgence.
Et cette solution, c'est d'implanter à Orléans une antenne de la fac de médecine de Zagreb. 50 places pour une formation dispensée en anglais par l'université croate, surtout en distanciel, moyennant 12 000 euros de frais d'inscription, en partie pris en charge par la ville d'Orléans. C'est un objet universitaire non identifié, réplique Éric Blond, le président de l'université d'Orléans.
Est-ce que chaque ville va pouvoir demain faire venir des établissements de partout dans le monde, comme ça, sans discussion à l'échelle du ministère ? Autant je pense que la question posée de la santé est totalement pertinente, autant la réponse apportée me paraît pour le moins surprenante.
Et la ville d'Orléans veut mettre en place ce système dès septembre.
François Guéroux de France Bleu Orléans.
C'était le rendez-vous du jour au téléphone sur la crise en Ukraine.
Les présidents russes, Vladimir Poutine et français Emmanuel Macron, se sont entretenus aujourd'hui et les deux chefs d'État sont convenus de la nécessité d'une désescalade sur le dossier ukrainien. Vladimir Poutine s'est plaint à Emmanuel Macron du fait que l'Occident n'a pas tenu compte des inquiétudes russes. Bonsoir Bertrand Galichet, et ce soir, on sait que le dialogue va se poursuivre.
Oui, bonsoir. En effet, car la solution à la crise ne peut pas être trouvée lors d'un simple coup de fil, dit-on à l'Élysée. Même après une bonne heure de discussion, les désaccords persistent, ils sont importants et assumés. Emmanuel Macron demande en effet à son homologue de respecter la souveraineté de l'Ukraine. Côté russe, Vladimir Poutine dément une nouvelle fois toute intention belliqueuse. Il se plaint des réponses des États-Unis et de l'OTAN qui ont rejeté ses exigences en matière de sécurité. Le dirigeant russe veut que l'Ukraine mette en œuvre les accords de Minsk signés en 2015 concernant la région séparatiste du Donbass. Vladimir Poutine et Emmanuel Macron sont favorables à la poursuite des négociations impliquant les Européens en format Normandie, c'est-à-dire réunissant la Russie, l'Ukraine, la France et l'Allemagne. Au cours de cette conversation, le président français n'a pas brandi le spectre des sanctions contre la Russie. Le ton de l'entretien a été sérieux et respectueux, selon une source à l'Élysée. La France va donc continuer à travailler à une désescalade, volonté officiellement partagée au Kremlin. Et puis ce soir, Emmanuel Macron a prévu de s'entretenir avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky pour lui redire l'attachement de la France à l'indépendance de l'Ukraine.
Bertrand Galichet, merci. Une campagne de pub pour dénoncer les violences conjugales provoque le malaise des internautes et des associations féministes. L'entreprise de prêt-à-porter Camailleux est accusée de rendre glamour les violences faites aux femmes. Sur le site de vente en ligne de l'enseigne, on peut voir des clichés de femmes battues entre deux photos classiques pour vendre des vêtements. Camailleux explique que cette campagne vise à promouvoir le 3919, le numéro national pour les femmes victimes de violences, mais l'enseigne, Béatrice Duguay, est sous le feu des critiques.
D'abord, n'imaginez pas des 4x3 dans les villes. Les images de ces femmes avec des ecchymoses, des yeux au beurre noir ou des lèvres fendues sont dispersées uniquement dans les visuels de la boutique en ligne. Sous les photos de ces femmes-là, le logo du 3919 et un message clair, victime ou témoin, composez le 3919. Pas de lien commercial quand vous cliquez sur les images, mais une sensibilisation et des informations. Des internautes ne sont pas convaincus pour autant, l'association Les Lyonnes notamment. Il faut vraiment ne rien connaître à la lutte contre les violences faites aux femmes pour pondre une idée pareille, regrette-t-elle dans un tweet. La marque est taxée de « féminisme washing » par d'autres comptes. Véronique Baquet, la directrice de la marque, réfute, elle, catégoriquement le coup de com' à bon compte.
On a 2800 collaboratrices dans notre réseau qui portent ce t-shirt 3919. Elles sont en contact direct avec leurs clientes. C'est une relation de femme à femme. Elles ont aussi été formées pour relayer le numéro, relayer le message. En cabine aussi, on explique ce numéro 3919, on explique son fonctionnement, qui est gratuit, qui est anonyme, qui n'apparaît pas sur la facture de téléphone. On le relaie également sur tous les tickets de caisse. Et l'objectif, c'est de briser le silence.
Camailleux est partenaire depuis 5 ans de l'association Solfa, Solidarité Femmes Accueil. La marque indique qu'elle a récolté 500 000 euros en 5 ans pour l'association grâce aux arrondis de caisse.
Et les photos de cette campagne Camailleux mise en ligne sur notre site franceinter.fr. Un énorme coup de filet qui porte sur des dizaines de tonnes de cigarettes de contrefaçon. Une filière de production de cigarettes contrefaites fabriquées en Slovénie, vendues en France, vient d'être démantelée par la juridiction interrégionale spécialisé de Bordeaux. Deux membres principaux de ce réseau criminel ont été interpellés sur mandat d'arrêt européen. Ils devront répondre notamment du délit d'importation en bande organisée de cigarettes contrefaites. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
Les gendarmes de Limoges, de Nantes, de Bordeaux et les policiers slovènes viennent de démanteler un trafic de grande ampleur.
Et cela part d'un revendeur à Limoges en rupture de stock de cigarettes de contrebande et qui décide de changer de fournisseur. Il se rend à Nantes, suivi par des enquêteurs qui découvrent un premier entrepôt. Pascal Pérez est le chef de la section de recherche de la gendarmerie à Nantes.
Ils avaient fixé des lieux de stockage, alors notamment à Nantes, sous forme de box de stockage classique dans des entreprises ayant une façade honorable, ça pose pas de problème.
Premier coup de filet en avril 2021, 5 tonnes de cigarettes contrefaites de deux grandes marques sont récupérées à Bordeaux principalement, mais également à Nantes, Limoges et Montpellier. Les enquêteurs s'intéressent alors aux semi-remorques qui arrivaient chaque semaine de Slovénie, 15 à 16 palettes, valeur à la revente à chaque livraison, plus de 500 000 euros. Et enfin, ce coup de filet franco-slovène avec Europol ces derniers jours sur les lieux de fabrication des cigarettes près de Maribor, dans la campagne slovène, dans de vraies petites PME, avec des machines-outils et dans des cartons, 29 millions de filtres saisis au total.
En fait, ces filtres de plus grande longueur permettaient de confectionner 5 filtres. Donc vous imaginez, ça fait 150 millions de cigarettes potentielles, les emballages, les cartons de cigarettes par 20.
Les policiers slovènes et les enquêteurs français gendarmes sont tombés sur 26 tonnes de tabac de contrebande également, dont on ne connaît pas encore la provenance.
Emmanuel Leclerc, la suite des auditions au Sénat devant la commission d'enquête sur la concentration des médias, les patrons et les figures majeures de l'audiovisuel et de la presse française, grands patrons, actionnaires, milliardaires, se succèdent en ce moment au Palais du Luxembourg. La commission d'enquête qui veut savoir dans quelle mesure l'information peut être affectée par ces phénomènes de concentration s'est aussi donné pour objectif de terminer ses travaux travaux avant le premier tour de l'élection présidentielle de 10 avril prochain. Et aujourd'hui, le Sénat a auditionné Nicolas de Taverneau, le président du directoire de M6. Bonsoir Alexandre Akoun.
Bonsoir.
Avec au cœur des débats, le projet de fusion entre M6 et TF1.
Une fusion indispensable, a expliqué Nicolas de Taverneau, pour pouvoir investir dans le numérique et faire face aux enjeux actuels.
Les plateformes et le développement ont habitué le public à avoir des programmes sans publicité. Or, aujourd'hui, on a compensé la baisse de l'audience que nous commercialisons par une augmentation du volume et des prix. Nous savons que ça ne durera pas. Donc, il faut que cette baisse de la durée d'écoute linéaire, nous la compensions par du non-linéaire. C'est ce que nous devons faire à bride abattue et nous ne pouvons pas le faire seuls.
Et pas question de lui dire qu'économie ne rime pas avec démocratie.
L'information, c'est une affaire de moyens. Si nous nous trouvons confrontés à des systèmes étrangers d'information uniques et que progressivement nous avons des moyens qui diminuent, nous serons en grande difficulté, y compris sur le plan démocratique.
D'ailleurs, en matière d'information, celui qui, on le sait déjà, prendra la tête de l'ensemble constitué par TF1, s'est voulu très clair.
Il y aura une autonomie des rédactions. Si vous nous dites, vous avez le droit de vous marier, mais vous devez faire chambre séparée, on n'ira pas. Nous avons besoin d'avoir des synergies qui sont mutuellement profitables.
Il n'y a qu'une question, en fait, posée par le rapporteur de la commission, David Assouline, à laquelle Nicolas de Taverneau n'a pas répondu.
Est-ce que M. Bolloré vous a proposé une offre ?
Là, vous me posez des questions directes. Là, c'est dans les...
Vous ne voulez pas répondre, d'accord.
Ça tombe bien, le temps qui lui était imparti venait de se terminer.
Alexandra Akoun, merci.
C'est le rendez-vous des passionnés de films de genre.
Le festival du film fantastique de Gérardmer, en ce moment, dans les Vosges, avec au programme jusqu'à dimanche. Des séances spéciales, des rencontres, des masterclass et une compétition dans le jury est présidée cette année par Julie Gaillet. Mais ce qui plaît aux habitués, c'est l'ambiance du festival qui se vit dans un décor gelé et en moon boots, Corinne Pellissier.
Arrivé à Gérardmer sous la neige, c'est un peu comme entrer dans un décor de film, la série de Revenant qui croiserait le cultissime Misery dans son écrin gelé, ses chalets au bord du lac et ce cri dans la nuit qui ponctue chacune des séances au public. Le fameux hurleur Cédric, aujourd'hui dans le rôle, venu avec sa bande de copains, tous fans hardcore de films d'horreur et de science-fiction, habitué du festival quasiment depuis sa création.
Bonjour, je m'appelle Cédric, 16 ans de festival.
Moi c'est Michael, c'est ma 12e année.
Et moi c'est Olivier, ça doit faire ma 11e année là maintenant.
On a tout réservé, on a toutes nos séances, toute la compétition, du hors-compétition, des soirées.
Et une fois qu'on est mordu, c'est le cas de le dire ici, on a du mal à ne plus venir en fait. Voilà. Il y a un truc sympa, déjà l'écran il est chouette. Quand il y a de la neige, même pas trop, c'est bien, il fait froid. En fait, il se trouve que les films d'horreur ou fantastiques, ça marche bien avec le froid et la neige. Ça marche bien. Un festival réussi, c'est de l'ambiance, c'est des films très variés. Après, est-ce que c'est un bon cru ? Ça, on le saura dimanche.
Des histoires de sorcières, de virus mutants, de villages hantés. 10 films sont en lice. Certains vous feront sursauter, d'autres carrément hurler de peur.
Et forcément, ça crée du débat. Et on reboit là-dessus, et on se couche à 1h du matin, et on refait le monde, et on se dit, allez, à l'année prochaine.
Corinne Pellissier, on vous retrouve demain à 6h50 dans le 6-9 de France Inter avec le reportage complet dans les coulisses du festival de Gérardmer. Le week-end de sport démarre ce soir en Hongrie avec un rendez-vous important au championnat d'Europe de handball et la demi-finale France-Suède. Soulagée par leur succès improbable face au Danemark avant-hier, les Bleus qui ont traversé pas mal de difficultés rêvent ce soir de finale européenne en direct de Budapest. On retrouve Jean-Pierre Blimeau. Bonsoir Jean-Pierre.
Bonsoir Frédéric.
France-Suède, deux équipes miraculées.
Ah oui, hein, la France, vous l'avez dit, est revenue de très très loin. C'était mercredi contre le Danemark. Et puis la Suède a frôlé deux fois l'élimination dans cet Euro. Contre les Tchèques au premier tour, contre la Norvège au tour principal. France-Suède, c'est encore un classique du handball. L'an dernier au Mondial, les Suédois avaient éliminé la France dans une autre demi-finale. Tiens, mais celle-là à huis clos. Et puis deux formations touchées par le Covid. Davantage les Suédois d'ailleurs avant cette rencontre. Au moins quatre joueurs covidés, dont le meilleur buteur qui a scoré 41 fois dans cette compétition. Il y aura tout de même des retours importants côté suédois. Et puis en France, côté français, on ne sait toujours pas si Quentin Mahé, placé à l'isolement depuis ce week-end, pourra jouer ce match. On est suspendu à un deuxième test positif. c'est déjà terminé pour Nicolas Tournat. Alors au-delà de ces considérations, on peut dire quand même que les Français récupèrent leur coach Guillaume Gilles, qui lui sera bien sur le banc ce soir. Et puis l'objectif, c'est aussi une qualification en finale, ce qui assurerait, Frédéric, une médaille pour les Français. Elle sera au minimum en argent si les Français gagnent ce soir, et ce serait la 22e médaille depuis les JO de Barcelone en 92, où les bronzés, on les avait appelés comme ça, avaient obtenu la médaille de bronze.
Jean-Pierre Blimeau, merci. France-Suède, coup d'envoi, et je sais que vous allez regarder, Claire. C'est à 20h30.
Ah, merci, oui. Je me rattrape, hein, comme je peux. Oui, merci, promis. Merci pour le programme, on va prendre des nouvelles du temps.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, pruneau rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonsoir Elodie Calac.
Bonsoir à tous.
Ciel encore encombré au nord demain.
Oui, sur la moitié nord jusqu'au Lyonnais, ce sera souvent gris avec de petites pluies entre la Normandie, le centre Val-de-Loire, la région parisienne, le nord, le nord-est. Sur le nord-est, quelques pluies verglaçantes seront d'ailleurs possibles par endroits. Le vent d'ouest soufflera près de la Manche et au nord de la Seine jusqu'à 50 km à l'heure. Sur les plaines du sud-ouest, il faudra composer avec la grisaille. Elle aura parfois du mal à se morceler. Et puis sur les autres régions du sud, vous aurez du soleil, moins de vent en Méditerranée, 50 à 60 km à l'heure pour Mistral et Tramontane.
Et encore des gelées le matin.
Oui, mais elles se limiteront tout de même au sud-ouest et aux régions de l'est avec moins 5 à 0 degrés. Et puis l'après-midi, il fera 4 degrés à Dijon, 5 à Lyon et Toulouse, 6 à Strasbourg, à Bourges, 9 à Bordeaux, 11 degrés à Paris, 12 à Lille, Caen, Brest et Marseille, 15 du côté de Bastia et 19 à Perpignan. Dimanche, ça s'éclaircira sur les régions au nord de la Seine le matin jusqu'à la Loire l'après-midi. Plus au sud, on aura encore pas mal de nuages, mais toujours du soleil en montagne et sur le sud-est avec du vent fort.
Merci beaucoup Élodie Calac de Météo France.